Bonjour Pierre-Louis, bonjour à toutes et à tous. Notre magazine est consacré aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre journal, au VIH. Nous ferons le point sur l'épidémie aujourd'hui en Corse, en France. Le point également sur les thérapies. Le retour que nous pouvons en tout cas en avoir après les années d'utilisation par les malades. Pour en parler avec nous, Sylvie Marcage, la présidente d'Ayoudougours, une des deux seules associations, il faut le dire, dans l'île qui s'occupe de sida. Et le docteur Abineau du service infectiologie de l'hôpital d'Ajaccio. Madame, monsieur, bonjour.
Bonjour.
Première question pour vous, Sylvie Marcage, vous avez participé évidemment au site d'Action 2013 qui cette année a donc franchi la barre des 5 millions d'euros de promesses de dons pour la recherche, c'est 25% de plus qu'en 2012, c'est une bonne nouvelle ça.
Ah, tout à fait, parce que les gens, il y a quand même une dynamique à nouveau qui se crée autour de cette thématique et c'est très bien, on en a tous besoin.
Vous aviez l'impression qu'il y avait eu une démobilisation autour
du
VIH ?
Oui, un peu quand même, oui, quand même un peu. Alors c'est vrai que, oui, oui, moi je trouve quand même que là, c'est bien reparti et c'est très bien parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le terrain.
Rappelez-nous l'objectif, l'objet du SIDAction.
Eh bien, le SIDAction finance bien sûr la recherche et finance beaucoup de structures un petit peu partout dans le monde, dont Ayoudougours d'ailleurs. Et donc, c'est très, très important. Ils font un travail quand même très important.
Est-ce que la Corse est généreuse, le sait-on, par rapport au site d'action ?
Oui, tout à fait. Oui, oui, on est en train, là, nous, de comptabiliser. Donc, je ne pourrais pas vous dire avec exactitude, mais quand même, c'est vrai que les gens sont très sensibles à ce problème.
Depuis quelques années, on entend souvent que l'épidémie de VIH est en recul. Est-ce que c'est une réalité, docteur Abineau ? Est-ce qu'on peut le dire de toute façon ? Ou est-ce que...
Oui, je pense qu'on peut le dire parce que c'est quand même le fruit d'un certain nombre d'efforts de scientifiques, de souffrances de malades hein, qui ont participé toujours très activement, quasiment de manière militante aux recherches, qui se sont toujours investis dans la prise en charge de l'épidémie. Donc je crois que c'est une manière de leur rendre hommage, de dire qu'effectivement, actuellement, l'épidémie recule. C'est particulièrement sensible dans les pays pauvres, où notamment la transmission materno-fœtale, c'est-à-dire le fait que les nouveau-nés de mères séropositives naissaient avec le VIH, eh bien, actuellement, cette transmission est très nettement en recul grâce à la mise en place de grands plans de coopération qui permettent de traiter les femmes enceintes plus ou moins longtemps avec leur accouchement. Donc je crois que il faut le dire, même si, comme le disait fort justement le slogan du site d'action, il ne faut surtout pas crier victoire trop vite.
On va y revenir, mais donc vous nous dites qu'il n'y a pas que dans les pays riches, entre guillemets, que l'épidémie recule, elle recule partout dans le monde, c'est important de le dire.
Alors, on va plutôt dire qu'elle se stabilise dans le monde, ouais. C'est-à-dire qu'elle cesse dans de très nombreux pays d'augmenter. Par contre, il y a des pays dont la situation épidémiologique nous est très mal connue. Je pense à l'Asie, à certains pays de l'Europe de l'Est, où on risque d'avoir de très mauvaises surprises, parce que non seulement il y a une méconnaissance de l'épidémie, mais parfois même un déni.
D'accord, carrément.
Voilà. Alors que dans nos pays riches, les progrès continuent à tout point de vue, notamment sur le plan des traitements. Il n'y a pas d'année qui passe sans qu'on ait 3, 4, 5 molécules nouvelles qui nous permettent de diversifier les traitements, de s'attaquer aux virus les plus résistants et d'améliorer le confort des malades qui prennent ces médicaments. Il ne faut jamais oublier que le sida et le VIH, ce sont des maladies qui se soignent toute une vie. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette vie, maintenant, elle est aussi longue.
C'est-à-dire qu'on n'en guérit pas.
On n'en guérit pas, mais l'espérance de vie de quelqu'un qui est séropositif aujourd'hui et qui se soigne est la même que l'espérance de vie d'un séronégatif. Ça, c'est quand même le message important. Énorme. Deuxième message important que l'on peut se permettre de donner depuis maintenant quelques années, c'est que si le patient est suffisamment bien traité pour que sa charge virale, pour que son virus soit indétectable dans son sang, il peut avoir des rapports non protégés sans faire courir de risque à son ou à sa partenaire de contamination au-delà d'un risque raisonnable. Quoi.
Si on essaye, alors c'est pas facile parce que effectivement la région Corse est une petite région sur la Corse, le ressenti que vous pouvez avoir, c'est que l'épidémie progresse, est stable, recule.
L'épidémie est relativement stable dans la mesure où les nouveaux cas équilibrent à peu près les décès, mais par rapport à ce qui se passait il y a 10 ou 20 ans, il y avait beaucoup de décès et beaucoup de nouveaux cas. Actuellement, nous déplorons 3 ou 4 décès par an et 3 ou 4 nouveaux cas.
Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous proposer d'écouter une interview de Patricia Hennel, qui est médecin. C'est la présidente du COREVI. C'est une sorte de comité qui coordonne les actions sur les régions Corse et PACA pour la lutte contre le sida. On écoute Patricia Hennel.
Elle sert à regrouper l'ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH dans une région donnée. Donc, en ce qui nous concerne, c'est la région PACA-Ouest-Corse. Donc, regrouper l'ensemble des acteurs, ce sont les acteurs du soin, donc les professions de santé, médecins, infirmiers, etc., psychologues. Ce sont les acteurs associatifs qui participent à la lutte contre le VIH également et depuis longtemps. Et toutes ces personnes sont réunies au sein d'un comité qui constitue le COREVI.
Qu'est-ce que vous faites ? Vous améliorez la réponse apportée, en fin de compte ?
Alors, c'est l'objectif, hein, c'est une de nos missions, c'est d'améliorer la prise en charge des patients, de la découverte de leur séropositivité, et avant, puisqu'il y a un axe prévention, jusqu'à leur prise en charge, l'accompagnement, le soutien, etc. Voilà, ça c'est une des missions, hein, mieux se coordonner, mieux travailler ensemble, s'améliorer à tout point de vue.
Et quelles sont les autres missions du COREVI alors ?
Alors les autres missions, c'est tout ce qui est le champ de l'information et puis de l'animation du réseau. Donc ça, c'est une mission très importante. Faire que tout le monde travaille ensemble sur une grande région comme la nôtre, c'est compliqué. Et ensuite, il y a une troisième mission assez importante qui est la mission épidémiologique. Recueillir des données concernant la prise en charge des patients ou permettant de décrire les personnes concernées ou les cas sanitaires de la région pour ensuite contribuer à mieux planifier les ressources, faire des estimations des besoins précis dans la région et ensuite adapter la réponse à ces besoins. On a une mission de dialogue avec les institutions régionales, comme l'Agence régionale de santé. Donc on est un peu leur bras armé pour réagir au niveau de la région. Et donc il y a un travail important entre le COREVI et l'ARS.
Il y a quelques années, on en parlait énormément. Il y avait beaucoup de mobilisation autour de cette maladie. On a l'impression que depuis quelques années, depuis en fin de compte les trithérapies, qu'il y a moins de mobilisation. Est-ce que c'est une réalité, une chose que vous constatez, vous ?
Effectivement, on a eu cette impression de banalisation. On trouve qu'on en reparle un petit peu plus ces dernières années, notamment parce qu'il y a de grandes avancées dans la prévention, dans le dépistage et puis également dans la prise en charge. Donc dans la prévention, maintenant, on parle de prévention combinée et on arrête un peu ce dialogue tout préservatif pendant toute sa vie. Dans le dépistage, on a maintenant la possibilité d'avoir des TROD, ce qu'on appelle des TROD, des tests d'orientation et pour un dépistage rapide. Et ensuite, maintenant, on vient d'en parler dans la presse, des autotests. Donc, ça change aussi beaucoup le dépistage. Et dans la prise en charge, après le grand succès des trithérapies et des nouvelles molécules qui sont parues vers 1994-1996, on a maintenant sans arrêt des nouveaux traitements plus efficaces ou des nouvelles présentations qui évitent aux personnes concernées de prendre 10 ou 20 gélules par jour. Et puis, on a démarré dans la région un essai de vaccin thérapeutique dont on attend les résultats. Donc, beaucoup de choses évoluent. Donc, on reparle à nouveau de tout ça. Et puis, on en reparle aussi parce qu'en fait, on a crié peut-être un peu trop victoire et que dans notre région notamment, on s'aperçoit qu'il y a une légère reprise de l'épidémie et que c'est inquiétant et qu'il ne faut pas baisser les bras ni la vigilance.
Voilà, donc c'est une interview de Patricia Hennel. Il ne faut pas baisser les bras, elle le redit. Hein, on a crié victoire peut-être un petit peu trop vite. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette interview. D'abord, une légère reprise de l'épidémie sur la région. À quoi est-elle due ? Est-ce que peut-être les gens qui sont séropositifs l'ignorent et du coup propagent la maladie ?
Exactement. C'est pourquoi on est très engagé actuellement sur les questions du dépistage. On sait que dans un pays comme la France, il y a environ 40 à 50 000 personnes qui sont porteurs du virus et qui l'ignorent. Donc, c'est des gens qui d'abord vont se soigner trop tard ou pas du tout, et d'autre part qui diffusent le virus sans s'en rendre compte. Et là, il y a la clé de la disparition définitive de l'épidémie. Hein, à partir du moment où tout le monde, c'est un petit peu utopique, mais pourquoi pas, tout le monde connaîtra son statut sérologique, et à partir du moment où tout le monde pourra être soigné et où aura conscience de ses responsabilités par rapport à l'épidémie, eh bien on pourra réellement, à ce moment-là, espérer un assèchement de l'épidémie.
Sylvie Marcage, parmi vos missions de terrain, c'est justement l'information, la sensibilisation, la prévention. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, je prends les jeunes aujourd'hui, eh bien qu'ils sont informés de cette maladie, de comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il est toujours nécessaire d'aller les voir et de leur répéter?
Oui, je crois qu'en matière de prévention, il est nécessaire d'être sur le terrain sans arrêt, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait justement de baisse d'action de terrain. Les jeunes sont informés, bon, peut-être pas toujours bien, mais au moins la notion de avec le préservatif, c'est indiscutable. Ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent. Quand on est jeune, on pense que rien ne peut nous arriver. Donc, il y a des comportements, bien sûr, qui ne sont pas toujours adéquats avec leurs connaissances. Mais bon, ils sont quand même...
Les comportements à risque existent toujours,
c'est ce que vous dites. Ils existent toujours, mais enfin, ce n'est pas que chez les jeunes. Je crois que les comportements à risque existent dans tous les âges de la population.
D'accord.
Bien sûr qu'on focalise beaucoup sur les jeunes, et c'est bien normal, parce que bon, on peut penser qu'ils ont une activité sexuelle beaucoup plus importante. Mais je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde. Tout le monde est informé. Quand, au moins à la base, ça ne veut pas dire que tout le monde se protège.
Lorsqu'on parle de prévention combinée, qu'est-ce qu'on entend par là?
Alors, pour la prévention combinée, faudrait...
Docteur Rabineau.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Oui. À partir du moment où on traite un séropositif et où sa charge virale est indétectable, il ne transmet plus, ou dans des proportions infimes, le virus. Donc, ce qu'on appelle prévention combinée, c'est traiter les séropositifs tout en poursuivant nos campagnes de promotion du préservatif, parce que quand on ne connaît pas son statut ou quand on échappe au traitement ou dans d'autres circonstances, il faut continuer à asséner le message préservatif.
Quand on parle d'épidémiologie, tout à l'heure Patricia Hennel parlait d'une des missions du Corévi importante, l'épidémiologie. Qu'est-ce qu'on entend par là et à quoi ça sert, à quoi ça vous sert?
L'épidémiologie, c'est la question qui préoccupe tout le monde. Combien y a-t-il de séropositifs en Corse, en France, dans le monde, etc. Ça, c'est l'épidémiologie brute. Et puis, il y a l'épidémiologie affinée, qui est de compter combien il y a de femmes et d'hommes parmi les séropositifs, combien il y a d'enfants, combien il y a de vieillards, il y en a de plus en plus, et aussi, quels sont les modes de contamination. On sait que actuellement, il y a une recrudescence des contaminations lors des rapports sexuels et notamment lors des rapports homosexuels. Mmh. Et ça, c'est très important de le savoir parce que ça permet de cibler la prévention, les messages de prévention et les dépistages.
Vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment très important pour nous.
Dans la communauté homosexuelle, un phénomène de relâchement. Il y a eu un sursaut dans les années 90. On a l'impression que depuis les années 2000, il y a eu le phénomène qu'on a appelé le relapse, le relâchement,
c'est ça,
justement.
C'est
un truc que vous avez constaté?
Ah oui, tout à fait. Malgré que c'est une population particulièrement bien informée, ce qui est quand même un peu en contraste.
Il y a même eu des phénomènes inverses, des gens qui se savaient séropositifs ou qui connaissaient le partenaire séropositif et qui ne voulaient pas utiliser de préservatif, par exemple.
Oui, ça existe dans la population homosexuelle, mais dans la population aussi en général. Bon, Dieu merci, peut-être pas quand même très courant, mais c'est vrai qu'on peut le constater. On a parfois des discours avec essentiellement le public gay qui, effectivement... a quand même des informations, je dirais, un peu plus que la moyenne, quand même. Ils ont tous été plus ou moins touchés de près ou de loin, donc ils connaissent bien la problématique. Mais en disant,
c'est étonnant de voir ce phénomène-là.
Ah oui,
tout à fait.
C'est très, très étonnant. Mais ça, c'est un constat national. C'est vraiment...
Ben, il faut... Ça vient également du fait que l'acte sexuel est par définition un acte pleinement libre et pleinement responsable. J'exclus bien entendu, et hélas, il ne faut pas trop l'exclure, les viols, la sexualité, disons, guerrière, hein, c'est-à-dire que quand il y a une guerre, notamment, il y en a en ce moment, hein, qui se déroule un peu partout, il y a là des rapports sexuels imposés, violents, qui sont très générateurs de nouveaux cas de VIH et de SIDA.
Ah, tout à fait.
Ça, c'est la barbarie. Mais sinon, l'acte sexuel étant en principe libre et responsable, l'action de la médecine, l'action des associations sera toujours, à un moment donné,
limitée. Forcément.
Par contre, pour ce qui concerne le rôle des pouvoirs publics, il faut bien rappeler que la contamination par le VIH lors des échanges de seringues par les usagers de drogue intraveineux, cette catégorie de contamination a pratiquement disparu. Pourquoi elle a disparu ? Parce que les pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités et ont engagé des actions de prévention dans le cadre d'une politique de santé publique, effectivement, comme vous le dites, efficace. On peut regretter que ça ait été un petit peu tardif, notamment en France, mais enfin, ça montre quand même que quand le pouvoir politique s'engage quelque part, ça peut avoir des conséquences très positives.
Sur ce sujet-là, la mise en place, les essais en tout cas qui sont faits actuellement en France, des salles de shoot pour les usagers de drogue, justement, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça peut être utile ou au contraire que, bien que les usagers ne seraient pas intéressés par ces salles ?
Bah, je pense quand même que non, je crois que ça va avoir une utilité. Bon, ça va peut-être être très difficile à démocratiser en France, hein, c'est bien possible.
On voit des oppositions effectivement
tout
hein,
à fait,
qui naissent
tout à fait. Donc, bien sûr, mais je pense quand même que ça peut avoir un intérêt supplémentaire pour ce type de population.
Sur le principe, vous êtes favorable
tout à fait,
en tout cas.
Tout à fait.
Sur le dépistage, on entendait tout à l'heure aussi Patricia Hennel parler d'autotest. Qu'est-ce qu'il faut en penser de l'autotest ?
Alors là, je pense qu'il faut. Ça peut être un outil, effectivement, mais intéressant, bien sûr. Hein, mais bon, on n'a peut-être pas assez de recul ici encore pour savoir un petit peu comment ça peut s'articuler, comment les gens vont réceptionner un test positif tout seul dans leur chambre. Voilà. Donc là, ça demande, pour en débattre, des réflexions plus approfondies. Quoi,
hein, parce qu'il y a en général, lorsqu'on fait un test et qu'on reçoit une réponse, ben, un accompagnement psychologique.
Bien sûr. Il y a un accompagnement qui est fait par les médecins. Bien sûr, on n'annonce pas une séropositivité comme ça, et en lâchant la personne, en disant « bon, ben, on vous revoit dans une semaine et tout va bien », ce n'est pas possible. Hein, donc il y a quand même un accompagnement qui est très, très important. Hein. Donc là, se pose la question de voilà, seul, quoi. Moi, je vous pose la question.
Vous réservez votre jugement.
Je réserve.
On entendait aussi parler d'un vaccin thérapeutique en essai actuellement. Est-ce que c'est une utopie ? Est-ce qu'on peut y croire, docteur Rabineau ?
Il faut voir les études. Hein. C'est toujours pareil. Quand il y a une innovation thérapeutique,
il faut régulièrement.
Oui, il y en a régulièrement. Beaucoup ont été très positives. Hein. La plupart toutes les molécules dont on dispose actuellement ont suivi ce circuit, hein, c'est-à-dire l'expérimentation bénévole, hein, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Il y a eu un engagement de la communauté, de toutes les communautés de malades pour soutenir la recherche au prix de d'un risque pour sa santé. Hein, il faut bien le rappeler. Les vaccins thérapeutiques actuellement à l'essai en PACA donnent un espoir raisonnable d'ajouter un outil à ce dont on dispose déjà maintenant. Mais attention, ce ne sont pas des vaccins préventifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore espérer l'arrivée de la dose vaccinale qui nous protégerait définitivement de la contamination par le VIH, comme on nous protège actuellement du tétanos. On peut penser que ça viendra un jour, mais là, on en est quand même encore assez loin. Par contre, les vaccins thérapeutiques qui aident à traiter les séropositifs, il y en a plusieurs actuellement en essai, et je pense que c'est une voie d'avenir à moyen terme.
Alors, on a beaucoup parlé de santé, mais il n'y a pas que la santé. Il y a toute la vie autour. Et la question de la discrimination est assez prégnante aujourd'hui. Il y a de très nombreux pays dans le monde, par exemple, où il y a des restrictions de circulation qui sont imposées aux personnes séropositives. Ce n'est pas le cas en France, mais tout n'est pas rose non plus en France.
Non,
notamment discrimination au travail, je pense, ça doit être relativement complexe.
Oui, certainement. Bon, je pense quand même qu'il y a eu quelques améliorations au fil des années, mais que le problème n'est pas résolu. Hein. Ça, c'est clair. Il n'est pas résolu, mais la discrimination, bon, alors c'est au travail, mais c'est un peu partout. Ce n'est pas qu'au travail. Et donc, il faut informer les gens, il faut continuer à être sur le terrain justement pour lutter quand même contre ces discriminations qui nous paraissent à nous complètement inacceptables aujourd'hui. Le problème n'est pas encore réglé. Ça s'est amélioré, moi, je trouve.
C'est toujours une maladie stigmatisante, globalement.
C'est une maladie stigmatisante, mais il y a aussi un effet, un effet rebond, c'est-à-dire que les personnes séropositives se mettent en retrait, elles aussi. C'est pas simple. Enfin,
Il y a une difficulté à assumer, vous voulez dire, aussi de la part des malades.
Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi se mettre un peu à part aussi. Alors, on peut comprendre qu'ils se mettent un peu à part parce qu'ils ont vécu beaucoup de discrimination par le passé, etc. On peut comprendre, mais ils ont quand même. Enfin, nous, on constate à U2Corse, si vous voulez, ils ont aussi du mal à aller vers les autres. Ils sont quand même très fermés entre eux.
D'accord.
Donc,
c'est à chacun de faire un pas, en quelque sorte.
Voilà.
C'est ce que vous dites.
Donc, oui. Alors, nous, on essaye de travailler un peu, justement, avec ça, en essayant de les incorporer dans des activités avec tout le monde, etc. C'est pas toujours évident. Et quand on leur en parle, ils ne voyaient pas du tout la question comme ça, mais à bien y réfléchir, ils pensent qu'effectivement, eux aussi ont une part, si vous voulez...
De responsabilité.
Oui.
Quelque part.
Oui, quelque part, ils ont aussi une part de responsabilité. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile non plus pour eux aujourd'hui. Hein.
Alors, le temps passe très vite, il nous reste un peu moins d'une minute. Rapidement, sur les actions peut-être menées par l'association U2Corse tout au long de l'année sur le terrain, vous le disiez, sensibilisation, prévention. Est-ce que, par exemple, il y aura une campagne estivale?
Oui, tout à fait. Tous les ans, on fait une campagne estivale et nous travaillons beaucoup l'été avec la participation du CIDACTION. Sur la prévention gay, justement, dans l'île.
Donc, concrètement, des actions, vous distribuez des préservatifs, vous allez dans les boîtes de nuit, comment ça se passe ?
Oui, on essaye d'aller sur les lieux identitaires gays, etc., sur les plages, on essaye d'aller au-devant de ce public qui a bien besoin d'être entouré.